bienvenue sur Radio Linguistica, la radio de partage des connaissances de la DGT. Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'être accueillie aujourd'hui dans les locaux de la DG Communication par Daniel Proux, membre de la DG Communication. Daniel, bonjour et merci de nous recevoir dans vos locaux.
Bonjour Caroline.
Daniel, vous avez longuement travaillé à la DGT, où vous avez été traducteur, puis project manager, spécialisé dans les questions de traduction automatique. Vous êtes aujourd'hui à la DGCOM, vous êtes membre de l'unité Europa Web Communication, donc qui supervise la communication web sur les sites Europa. Et vous êtes plus particulièrement chargé des questions de multilinguisme sur les pages web de la Commission. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que fait votre unité et ce que vous faites au sein de cette unité ?
Donc, au sein de la Commission européenne, chaque DG, chaque agence est responsable de sa propre communication web. Mais on cherche évidemment à faire en sorte que cette communication soit la plus harmonisée, la plus cohérente possible. Et donc c'est le rôle de notre unité de faire en sorte que cette communication, de l'ensemble de la communication web de la Commission, soit cohérente. Donc on fait ça à la fois en proposant des outils techniques, une plateforme centralisée pour que les DG puissent publier leur site web. Et on fait ça aussi en définissant un certain nombre de règles quand les DG, quand les agences publient du contenu sur le web. Donc ça, c'est le rôle un peu de centralisation et d'harmonisation du travail que fait notre unité. Maintenant, mon rôle spécifiquement, c'est de m'occuper de toutes les questions de multilinguisme, c'est-à-dire de veiller à ce que, au sein de la communication web, les langues soit représentée, que la communication se fasse le mieux possible dans toutes les langues de la Commission et parfois même au-delà.
Alors justement, en tant qu'ancien membre de la DGT et maintenant chargé du multilinguisme à la DG Communication, vous êtes vraiment le parfait interlocuteur pour répondre à certaines de nos questions que nous nous posons à la DGT, c'est-à-dire qui décide de quoi en matière de multilinguisme sur les pages web de la Commission ? Quelle est la place du multilinguisme sur ces pages et quelle est la part de la traduction humaine et de la traduction automatique sur ces pages? Alors, d'abord, quelques mots sur la fréquentation des pages web Europa. Est-ce que les sites de l'UE sont très visités?
Alors, la Commission publie vraiment un très grand nombre de sites. Il y a plusieurs centaines de sites qui dépendent de la Commission européenne. Et donc, il y a un très grand écart entre les sites les plus visités, où il peut y avoir des dizaines de millions de visiteurs par mois, comme c'est le cas pour le site central de la Commission ou un site comme Your Europe, et des sites qui s'adressent à un public extrêmement spécialisé ou qui portent sur des sujets extrêmement précis, auquel cas bon, ce genre de site peut ne concerner que quelques milliers de visiteurs par mois. Vous voyez, la différence entre les sites les plus visités et les sites les moins visités est très importante.
Alors, je sais qu'il existe une politique linguistique, language policy, qui s'applique au contenu de tous les sites de la Commission. Donc, cette politique linguistique fait partie d'un ensemble de règles qu'on appelle le Web Guide, que les personnes et les services qui publient du contenu web sur les sites de la Commission doivent respecter. Et cette politique est en train d'être révisée. Alors, que dit cette politique sur l'emploi des langues sur nos pages web ?
Donc, le principe général, c'est de dire on cherche à faire en sorte que le contenu publié sur le web par la Commission soit disponible dans autant de langues que possible. Après, il y a des sites qui visent un très large public, encore une fois, Europe ou le site central de la Commission, et il y a des sites qui s'adressent à un public beaucoup plus restreint, un public d'experts. Donc on ne peut pas exiger que tous les sites soient disponibles dans toutes les langues. Pour un site comme Europe, manifestement, il faut qu'il soit traduit dans toutes les langues de la Commission parce qu'il s'adresse à tous les citoyens. Pour un site qui s'adresse à un public d'experts qui ont l'habitude de communiquer dans une langue en particulier, probablement l'anglais, on accepte très bien que le site lui-même ne soit disponible qu'en anglais, puisque ça serait un peu un effort d'une utilité limitée de traduire du contenu qui ensuite ne sera lu que par un faible pourcentage, ou très faible pourcentage même probablement, des visiteurs, qui le site lui-même n'étant visité que par un très petit nombre de visiteurs. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, concentrer les ressources de traduction sur les sites qui attirent le plus de visiteurs, qui ont vraiment besoin de ces traductions.
Et cette politique donc, qui est destinée à ceux qui publient du contenu sur les sites Europa, est-ce qu'elle est accessible au grand public? Je sais que c'est une politique qui, pour l'instant, contient 8 principes, je pense. Hein. Est-ce qu'on peut la consulter en ligne?
Alors, on peut la consulter en ligne, comme vous l'avez mentionné. Elle s'appelle le Web Guide, donc, qui contient un ensemble de règles sur tout ce qui concerne la présence web de la Commission, pas juste les langues. Les langues, c'est juste une petite partie de cet ensemble de règles. Mais il faut garder à l'esprit aussi que la façon dont les règles sont formulées s'applique essentiellement aux créateurs de contenu sur le web, pas aux visiteurs. Pour les visiteurs, il y a une explication aussi de pourquoi on propose parfois du contenu dans toutes les langues, parfois dans un nombre limité de langues, et parfois on utilise la traduction, parfois on utilise la traduction humaine. Ça, c'est une page séparée qui est disponible à partir de toutes les pages publiées par la Commission. Donc il y a un lien sur toutes les pages publiées par la Commission à propos des langues sur notre site. L'intitulé change parfois un petit peu, mais qui mène vers la même page qui explique la politique linguistique de la Commission sur ces sites web.
Et alors, cette politique linguistique, elle a été mise en place par un comité hein, qui s'appelle le Europa Steering Board, ESB. Alors, qui compose ce comité et que fait-il?
Donc, le ESB, Europa Steering Board, est composé des directeurs généraux de la DGT, de la DG Communication et de la DIGIT. Et donc, les directeurs, quand ils ont à discuter de choses qui concernent la présence web de la Commission, ils vont se consulter les uns les autres et prendre des décisions donc en comité. Donc la DGT est évidemment impliquée dans tout ce qui concerne la politique linguistique, les langues. Et donc la DGT a son mot à dire quand on discute de la politique linguistique de la Commission.
Alors justement, une décision a été prise récemment qui a heurté ou qui a été un peu mal reçu par certains traducteurs, traductrices à la DGT. C'est à propos du site qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, qui s'appelle Your Europe, donc qui est un site destiné vraiment à informer les citoyens européens, et qui est un site qui est très visité. Hein, d'après les chiffres que vous m'aviez donnés, c'est 50 millions de visiteurs, je crois, en 2021. Donc c'est vraiment un très très gros site. Et une décision a été prise de ne plus traduire l'intitulé de ce site dans les différentes langues, sachant que ce site est traduit dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Et moi, j'en ai moi-même traduit de nombreuses pages en tant que traductrice web. Et voilà, et je me demandais, est-ce que c'est le Europa Steering Board qui a pris cette décision?
Dans ce cas particulier, non. C'est une décision qui a été prise par essentiellement le législateur européen, puisque la décision de garder l'intitulé en anglais uniquement de ce site est incluse dans une décision du règlement et du conseil. Donc ça n'a rien à voir, c'est un niveau beaucoup plus élevé finalement que le Europa Steering Board, que la décision a été prise.
Alors concrètement, quel type de pages sont publiées uniquement dans une langue, qui est souvent l'anglais, ou alors dans plusieurs langues officielles de l'UE, ou dans toutes les langues officielles de l'UE? Est-ce que vous avez des exemples? On a déjà évoqué Your Europe.
Effectivement, Your Europe. Là, le principe, encore une fois, pour la personne qui est responsable du site web, c'est d'essayer de déterminer quel est son public et dans quelle mesure son public a besoin d'une traduction dans, en général, ce sera toutes les langues de la Commission. Parfois, ça sera un nombre un peu plus limité de langues, mais en général, ça sera toutes les langues de l'Union européenne dans lesquelles le site sera traduit. Et donc, c'est au propriétaire du site de décider dans quelle langue il va traduire. Donc, effectivement, des sites qui fournissent des informations pratiques, utiles aux citoyens, qui ont des conséquences vraiment directes sur la vie des citoyens, la décision, logiquement, a été prise de traduire dans toutes les langues de l'Union par des traducteurs. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a des sites extrêmement spécialisés pour qui apporte des informations qui ne concernent que des experts d'un domaine particulier. Dans ce cas-là, la décision sera prise probablement de ne pas traduire. Et puis après, il y a tous les cas un peu intermédiaires, par exemple les informations générales sur les politiques de l'Union, etc. Pas les informations politiques, parce que les informations politiques urgentes ou centrales ou qui ont un poids politique important, là encore, la décision est toujours prise de traduire dans toutes les langues de l'Union. Et dans ces cas, à chaque fois, évidemment, c'est la DGT qui s'occupe de traduire ce contenu. Mais il y a tout, effectivement, après tout ce qui est entre les cas d'extrême spécialisation et les cas où ce sont des informations très générales et très importantes pour tous les citoyens, où là, on laisse donc au propriétaire du site de décider est-ce qu'il vaut mieux que ce soit traduit dans toutes les langues ou est-ce qu'on a recours à d'autres solutions comme la traduction automatique. Puisque même pour les propriétaires des sites, la quantité de travail que représente la traduction dans les langues, ça n'a rien à voir évidemment avec l'effort que fait la DGT, mais c'est un réel effort aussi d'arriver à faire en sorte que les langues soient traduites, de suivre, de mettre à jour les différentes versions des pages, etc. Donc pour le propriétaire d'un site, c'est des ressources aussi de faire en sorte que le site soit multilingue. Et donc après, on peut aussi trouver des solutions intermédiaires qui consistent par exemple à ne traduire que les pages les plus importantes d'un site dans toutes les langues. Ça, encore une fois, à chaque fois, c'est au propriétaire du site de décider en fonction de son public et aussi en fonction, par exemple, des statistiques qu'il voit de visite de son site. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs pour qui l'existence de pages traduites dans toutes les langues pourrait être bénéfique?
Quel type de pages sont traduites par les traducteurs humains, c'est-à-dire nous à la DGT, et pour quel type de pages est-ce qu'on propose de la traduction automatique, c'est-à-dire notre moteur de traduction, e-translation?
Donc, les règles générales qui s'appliquent, c'est que tout le contenu politiquement sensible, tout le contenu où il faut un degré de précision, d'exactitude de la traduction élevé, tout ce type de contenu doit être traduit par des humains. Parce qu'il est sensible, parce que le degré de précision de la traduction est important. Et ça s'applique, encore une fois, on l'a déjà mentionné, au site central de la Commission, déclaration politique de la présidence, par exemple, ou un site comme YouEurope, puisque YouEurope décrit des procédures administratives que doivent suivre les citoyens. Donc là, il faut un degré de précision élevé. Donc, si le visiteur a besoin d'informations précises, dans ce cas-là, ça sera des traductions humaines. S'il suffit qu'il ait accès à des informations plus générales sur un sujet, dans ce cas-là, la traduction automatique telle que fournie par eTranslation sera suffisante.
Alors, concrètement, quand un utilisateur ou une utilisatrice arrive sur une page proposant de la traduction automatique, est-ce qu'il ou elle y a accès directement ou est-ce qu'il faut la demander?
Alors, l'un des principes qui a été aussi retenu par l'Europa Steering Board, donc cette assemblée des directeurs généraux, c'est que quand un visiteur accède à la traduction automatique, il doit toujours la demander. La traduction automatique n'est jamais fournie d'office. Donc, il doit toujours cliquer sur un bouton qui indique voilà, j'accepte d'accéder à la traduction automatique. Donc la traduction automatique à l'heure actuelle est intégrée dans la plateforme que nous utilisons pour publier les pages web de la Commission.
C'est EWPP ou...
Qui s'appelle, oui, EWPP, Europa Web Publishing Platform. Il y a plusieurs plateformes qui existent, mais celle que nous gérons donc dans notre unité s'appelle Europa Web Publishing Platform. Cette plateforme intègre la traduction automatique, intègre e-translation d'office, donc un propriétaire de site web qui veut ajouter la traduction automatique à son site peut l'activer très simplement en le demandant. Mais donc, quand il utilise donc, le système de traduction automatique intégré de la plateforme, le visiteur qui veut accéder à la version traduite automatiquement d'une page doit le demander systématiquement. On est en train de revoir la façon dont fonctionnent les langues en général sur les sites qui utilisent cette plateforme, Europa Web Publishing Platform, de manière à rendre les choses plus fluides et plus faciles à naviguer pour les visiteurs. Mais le principe restera le même. Le principe sera, avant de voir de la traduction automatique, le visiteur devra cliquer sur un bouton pour dire « voilà, j'accepte de voir de la traduction automatique ». Un autre des principes, c'est que quand un visiteur accède à une page qui contient de la traduction automatique, il aura toujours un message d'information qui lui dit « voilà, ceci est de la traduction automatique », avec un lien vers la page qui explique la politique linguistique de la Commission et la raison pourquoi la Commission utilise la traduction automatique sur ces pages. Donc ça, c'est deux des principes, hein, qui toujours l'avertissement sur la traduction automatique et le fait que l'utilisateur doive cliquer sciemment sur un lien pour accéder à la traduction automatique. Ça, c'est les deux principes qui restent et qui resteront pour l'utilisation de la traduction automatique sur les sites web de la Commission.
Donc, une fois que l'utilisateur clique sur « voilà, je voudrais de la traduction automatique », est-ce que la traduction est instantanée ou est-ce qu'il y a un temps de latence ?
Il y a toujours un temps de latence qui permet aussi finalement de créer une sorte d'avertissement pour le visiteur, puisqu'il sait que quand il attend, ça veut dire que c'est de la traduction automatique, quand il n'attend pas, c'est de la traduction humaine. Donc il y a à peu près peut-être une dizaine de secondes en moyenne où le visiteur doit attendre avant de voir s'afficher la traduction automatique.
Alors pour terminer, Daniel, parce que je crois que nous arrivons déjà malheureusement à la fin de notre interview, je voudrais évoquer la question de la qualité des traductions. Bon, nous savons tous, hein, traducteurs, traductrices, que la traduction automatique commet des erreurs, des faux sens, des contresens, des ajouts, des omissions, sans parler du style, qui demande souvent à être retravaillé si on veut arriver, disons, à la qualité d'une traduction humaine. Bon, moi, j'en donnerai un seul exemple que j'ai vu récemment dans un texte web. L'anglais disait « Women are still vastly outnumbered by men in the financial services sector ». Et ça a été traduit par « Les femmes sont encore nettement plus nombreuses que les hommes dans le secteur des services financiers ». Donc c'était un très joli contresens, puisque c'est exactement l'inverse. Ce que dit l'anglais, c'est « Les femmes sont encore largement minoritaires dans le secteur des services financiers ». Donc ça pose la question du risque que les utilisateurs soient exposés à des informations erronées ou mal dites. Que répondez-vous à ceux qui s'en inquiètent et qui estiment que la traduction automatique représente un risque pour l'image, la réputation de la Commission et des institutions ?
Le risque, on ne peut pas le nier. Il existe d'avoir des faux sens, d'avoir des contresens dans les textes traduits automatiquement, puisqu'on ne peut pas vérifier a priori tout ce qu'a traduit tout ce que traduisent les moteurs de traduction automatique, y compris Translation. Maintenant, comme on l'a mentionné, le visiteur est toujours informé de ce qu'il voit et de la traduction automatique. On peut supposer qu'entre-temps, le visiteur a aussi eu suffisamment d'expérience avec la traduction automatique via d'autres moyens, pas juste e-translation, mais bon, je ne vais pas citer les autres moteurs, mais il a déjà été exposé à la traduction automatique et il sait que la traduction automatique vaut ce qu'elle vaut, a une qualité qui parfois est largement suffisante. Et ce qu'on a constaté, c'est que pour les sites de la Commission, e-translation fonctionnait très bien et permettait aux visiteurs essentiellement d'accéder à tout le contenu, ou à l'essentiel du contenu en tout cas, qui est publié sur les pages de la Commission. Donc le visiteur sait que la qualité est parfois bonne, parfois un peu moins bonne. L'alternative à ne pas proposer de traduction automatique, c'est que le visiteur n'a pas accès du tout aux informations que publie la Commission. Et donc, pour le coup, que la Commission se voit accusée de ne pas faire tout ce qu'elle peut pour fournir l'information qu'elle publie à tous les citoyens de l'Union européenne et pas uniquement à ceux qui sont anglophones. Donc, il y a effectivement un risque des deux côtés, mais pour nous, le risque finalement que la Commission soit accusée de ne pas fournir l'information à ses visiteurs, autres qu'anglophones, l'emporte largement sur les risques de qualité qui existent, hein, qu'on ne peut pas nier, mais sur les risques de qualité de la traduction automatique.
Je vois que nous arrivons à la fin de cette émission, malheureusement. Daniel, merci beaucoup encore une fois de nous avoir accueillis chez vous.
Merci Caroline.
Je rappelle que vous êtes responsable de la communication web multilingue au sein de l'unité Europa Web Communication à la DG Communication. Merci encore et bonne journée.
Au revoir, bonne journée.